Merci Pascal, merci à groupe de louanges, merci à chacun, chacune. Je sais que vous, les amis coréens, vous priez souvent et que la qualité de nos rencontres est certainement due aussi à vos prières. Voilà, je tiens à le souligner, voilà. Merci pour votre présence, vos prières, merci pour la présence de chacun. Voilà, c'est une joie toujours de communiquer la parole. Parce que cette parole, elle est vivante. Elle agit. Elle agit. Et donc c'est une joie pour moi de communiquer la parole. Et vraiment, notre souci, comme tous ceux qui communiquent la parole le matin, c'est pas qu'on nous dise après le culte, « Oh, c'est bien ce que tu as dit, c'était des belles paroles. » C'est pas ça le but. Bien sûr, ça encourage l'ego un peu, hein. Ça flatte l'ego, mais ça encourage, attention, ça encourage. Ça encourage. Et donc, on reçoit cet encouragement, hein. On le reçoit comme un encouragement. Voilà. Mais notre but premier, c'est vraiment que cette parole, elle nous transforme. Elle nous transforme. D'accord? Alors, je crois que nous sommes en ce moment dans un temps de réajustement. Dans ces derniers temps, le Seigneur cherche à nous réajuster avec lui. On l'a reçu, c'était le mot-clé à l'entrée de ce week-end dans sa présence. Et on a vu, souvenez-vous, il y a 15 jours, que le Seigneur voulait nous réajuster, et Pascal l'a redit encore ce matin, dans notre vision de qui est le Christ. On l'a vu, ça, il y a 15 jours, que le Seigneur veut nous réajuster dans notre annonce de Jésus-Christ, une annonce fidèle au rang que lui me donne les Écritures, au rang du roi des rois, seigneur des seigneurs, plein d'éclat, de majesté. Sans crainte de nous laisser séduire, en étant vigilant de ne pas nous laisser séduire, et en acceptant la souffrance qui incombe à cette fidélité dans notre annonce. D'accord ? Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que cette invitation au réajustement, ça concerne aussi toutes nos convictions. Est-ce que toutes mes convictions que j'ai, elles sont bonnes? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises convictions qui traînent par là? Ah. Alors le titre, voilà, il y a un petit diaporama. Donc c'est un peu le titre. Ça vient? Oui, voilà. Vous allez voir le titre, hein, d'accord? Réajuster par le Seigneur dans toutes nos convictions. Réajuster dans toutes nos convictions. Des choses peuvent aller de travers dans nos vies à cause de mauvaises convictions, même parfois très tôt dans notre vie, dès notre enfance. Des choses peuvent aller de travers à cause de mauvaises convictions. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous allez voir une image. La tour de Pise. Voilà. Elle a été construite au XIIe siècle, à Pise, près de Florence, en Italie. Et très très vite, dans les premières années de sa construction, elle a penché. Elle a penché pourquoi? Dû à un affaissement de terrain. Un terrain marécageux. Et il fallait faire, paraît-il, des travaux tout de suite dans les premières années pour éviter qu'elle ne s'effondre définitivement. Et il paraît que, même dans les années 90, on a encore fait des travaux parce qu'on craignait qu'elle pouvait vraiment encore pencher et voir. On est sûr, là, enfin, on est sûr, du moins les architectes disent qu'elle durera au moins 100 ans, d'autres disent 300 ans. Bon. C'est pas tellement rassurant pour les touristes. Hein. C'est pas tellement rassurant pour les touristes. Hein. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, cette tour de Pise est l'image de nos vies qui, parfois, dès le départ, penchent à cause de même un événement dans notre naissance, dans notre adolescence. Et parfois, plus tard, parfois, ça démarre bien. Et puis il y a un événement, clac, ça part de travers. Alors on va voir. Donc le message, c'est l'importance d'avoir des bonnes convictions. Et on va voir trois situations dans la Bible. Trois situations. La première, toc, pas plus loin. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là? Quelle scène, à votre avis? Ouais, c'est un tableau, mais quel personnage? Cain et Abel. C'est curieux, ce matin, ceux qui ont mis les programmes à la télévision savaient que je devais parler de Cain et Abel ce matin, puisque j'ai mis la présence du Seigneur et j'ai écouté la partie juive, et puis j'ai eu un commentaire sur Cain et Abel. Et j'ai fait une découverte, c'est que Abel, celui que vous allez voir après, je vais relire le récit, mais celui qui a fait une offrande à Dieu avec une peau, du sang ou une peau d'animal, tandis que Cain a fait une offrande à Dieu avec des fruits de son travail des champs. Abel veut dire buée. Abel signifie buée. Et Abel, quand il a fait son offrande, il savait que sa vie n'était qu'une buée. Et il avait conscience de sa pauvreté. Et Cain veut dire avoir, posséder. Et Cain est venu en présentant son offrande en disant, c'est un peu comme le pharisien dans le temple, qui disait, je ne suis pas comme ce publicain, moi, regarde, c'est, je l'ai fait de mes propres mains, regarde. Il était plutôt dans l'avoir, hein, Cain. Abel était plutôt dans l'être. Hein, ouais. Et alors, première situation, Cain. Alors, Cain, je vais quand même lire le texte. Hein. C'est dans Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut en faute à Cain, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, examinons cette situation. Nous avons un événement qu'on va appeler A. C'est le refus de Dieu de son offrande. Dieu a refusé son offrande. Voilà. Ça, c'est l'événement. D'accord ? Ensuite, une conviction qui habite Cain, Dieu doit accepter mon offrande. Dieu doit. Et il était dans des mauvaises dispositions, il agit sans tenir compte de la pensée des instructions de Dieu. Et ensuite, une réaction, suite à la mauvaise conviction, voilà, réaction, colère contre Dieu, contre Abel, sentiment de rejet, on a beaucoup parlé du rejet, et ça va jusqu'au meurtre. C'est sa réaction. Et on voit d'ailleurs dans ce récit que Cain représente la naissance de la religiosité. Je veux servir Dieu à ma façon. Je veux servir Dieu à ma façon, sans tenir compte des directives de Dieu, sans reconnaître ma pauvreté, mon besoin de pardon. Cain représente, traduit cette prise de conscience, enfin, Cain représente la religiosité. Abel représente la vraie spiritualité. Et remarquez bien, c'est pas l'événement qui a fait chuter. C'est pas l'événement, Dieu, je refuse ton offrande. C'est l'interprétation qu'il en fait. C'est l'interprétation de l'événement. Cain aurait pu changer sa manière de penser. Et c'est l'objectif de Dieu quand il lui parle, quand il exhorte à dominer sur ses émotions négatives. Il lui dit, fais attention Cain, le péché se couche à ta porte. Fais attention. Si tu te reprends, eh bien tout peut se remettre en ordre. Cain aurait pu, suite à l'intervention de Dieu, contester sa conviction. Si vous retenez un verbe, un mot, c'est ça. Je dirais le titre de ce message pourrait être « Apprendre à contester nos mauvaises convictions ». On va voir dans quelques instants que d'autres l'ont fait et ont rectifié. Et donc, il a, par le rejet, il a donné accès au diable. Et ça l'a conduit au meurtre. Voyons maintenant une deuxième situation dans la Bible. Alors là, à votre avis, c'est quoi? Oui, c'est vrai que c'est un peu pâle. C'est un peu pâle, hein. Oui, oui. Non, c'est pas Moïse, non. Oui, Joseph. Joseph qui retrouve ses frères. Voilà. Bon, alors pour rappel, Joseph quand même, il en a vu. Joseph, il en a vu. Ses frères jaloux de lui. Parce que un petit peu chouchou du papa, c'est vrai, de Jacob. Il l'abandonne dans une fosse profonde, laissant croire à leur père qu'il a été tué par un animal féroce. On imagine par quoi il passait Joseph. Tous les combats contre la peur de mourir dans cette fosse. Puis une fois qu'il était libéré, la peur de... Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens qui m'ont pris? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Et tous ces combats contre l'amertume vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de Dieu, peut-être. Et après bien des années, au service d'un officier de Pharaon, un temps en prison, pour une fausse accusation, après 13 ans, il se retrouve premier ministre de Pharaon, et dans le cadre de ses fonctions, voilà qu'il retrouve ses frères, venus chercher du blé, parce que c'était la famine, et que Joseph avait été averti divinement que il allait avoir une famine et qu'il fallait faire des stocks de blé. Alors là, c'est le moment où Joseph a déjà vu plusieurs fois ses frères, il ne s'est pas fait connaître, c'est le moment où il se fait connaître. Et on va voir comment Joseph réagit. Donc je lis et on trouve ça dans, s'il y en a qui veulent le suivre avec moi, dans Genèse 45, 1 à 5. Genèse 45, 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir. Tu peux mettre le titre. Voilà. Ne pouvait plus se contenir. Devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix, pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph !» Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Waouh! Quelle lucidité, c'est Joseph. Alors là, on va faire le même schéma, événement. Il est jeté par ses frères dans une citerne. Conviction. Conviction, je crois que dans tous ses combats, il a dû dire, mais Dieu a certainement un plan. Dieu a un plan. Il a saisi que toutes les circonstances étaient pour tester son caractère et que Dieu avait un plan derrière. Et il s'est dit, je peux continuer à faire confiance en Dieu. Réaction? Pas de vengeance. Pardon. magnifique. Magnifique. Alors, on va voir une troisième et dernière situation. Alors là, c'est beaucoup plus dur à trouver. Est-ce que vous pensez à un personnage dans la Bible qui vraiment à un moment dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas comment ça se fait que, pourquoi ?» Ah, ça aurait pu être Job. Et ce n'est pas Job que j'ai choisi, ni David. On ne pense pas à ce personnage. On ne pense pas à ce personnage parce que ce n'est pas tellement dans les récits. Ce personnage, on en parle dans les psaumes. On en parle dans les psaumes. Voyez pas ? Asaph. Psaume 73. Psaume 73. Voilà. Asaph. Alors, le fameux psaume 73, où Asaph dit, mais je comprends pas. Je vois les méchants à côté de moi et ils prospèrent. Hein, on va lire ça, c'est dans le psaume 73, 12 à 17. Psaume 73, 12 à 17. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil, Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre au ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et ma sœur, ma chair et ma, pas ma sœur, mon cœur, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Alors là, on va voir cette situation. Événement. La prospérité des méchants. La prospérité apparente des méchants. Apparente. En fait, on devrait dire ça. Apparente. Conviction. Cela ne sert à rien. Que je purifie mon cœur. Vous êtes déjà dit quelquefois ça. Oh, à quoi bon ? À quoi bon tous les efforts que je fais là avec Dieu, quelquefois, hein ? Ça nous est arrivé peut-être. Réaction, l'amertume, la jalousie. Mais Asaph a contesté sa conviction. Étape suivante, il a contesté sa conviction. Il a cherché la présence de Dieu dans le sanctuaire. Et ensuite, pour recevoir une nouvelle conviction, Dieu ne m'abandonne pas. Ouais. Et nouvelle réaction, la reconnaissance au lieu de l'amertume. La reconnaissance au lieu de l'amertume. Combien de vies peuvent être cachées par des mauvaises convictions. Et nous sommes là, nous chrétiens, pour apporter la lumière et demander que la lumière se fasse, que les gens reçoivent la lumière sur l'esprit de mensonge et pour les amener à la vérité. « ces mauvaises convictions peuvent devenir de véritables forteresses mentales. Ces forteresses dont parle Paul dans une épître. Vous voyez, là, c'est juste la fin du psaume 73, suivant. Voilà, 2 Corinthiens 10, 3 et 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, les mauvaises convictions, et toute hauteur qui s'élève contre Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, de mauvaises convictions peuvent venir de très loin en arrière. L'absence d'un père, la parole dure d'un père ou d'une mère. On le voit à Hélel, on l'a appris à Hélel le week-end dernier, ceux qui l'ont fait, il peut y avoir des mauvaises convictions sur la notion de l'amour. Il y a des gens qui sont convaincus que le véritable amour, c'est un amour possessif. Il faut que je possède l'autre. Il ne doit jamais me dire non. Et Dieu n'a pas cet amour possessif. Il y a des mauvaises convictions sur la notion même de l'amour de Dieu. Dieu ne m'aime que uniquement lorsque je lui obéis. Alors que Dieu a un amour inconditionnel. Je vais vous donner plusieurs exemples de forteresses mentales. Et peut-être, j'ai prié pour ça tout au long de la semaine, que le Saint-Esprit montre. Peut-être qu'il y en a des forteresses mentales dans celles que je vais citer maintenant, qui parfois vous effleurent, parfois peut-être vous influencent, et parfois peuvent être de véritables forteresses en nous. Je ne suis pas digne de vivre. Je ne vaux rien. Je ne réussirai jamais. Personne ne m'aime. Je n'ai pas de talent. Je ne peux pas changer. Il n'y a pas de solution. Je dois plaire aux autres. Je ne dois jamais leur dire non. Je ne serai jamais quelqu'un de bien. Dieu ne m'aime pas vraiment. Mes problèmes d'enfance m'influenceront toujours. Les autres me laisseront toujours de côté. Je cherche une relation qui me comblera pleinement. Les autres sont une menace pour moi. Je ne peux faire confiance à aucune personne. Je ne me marierai jamais. Je ne vivrai pas longtemps. Je suis fichu. Je ne peux pas être en bonne santé. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas capable de comprendre. Ma vie n'a pas de sens. Je ne peux pas pardonner. Je lui en voudrai toute ma vie. Les hommes sont tous les mêmes. Les femmes sont toutes les mêmes. En dominant, j'ai l'impression d'être quelqu'un. J'échouerai toujours. Je ne serai jamais aimé. Je serai toujours ignoré. Vous voyez, on comprend pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Ne vous conformez pas au monde, dit-il dans Romains 12. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable. Et parfait. Et Paul nous parle là de contester en quelque sorte nos convictions, nos mauvaises convictions, pour recevoir les bonnes, celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. On est en train de voir dans le groupe Contact à Wavrin 5 objectifs que Dieu a pour nous. Et un premier objectif, et Pascal a donné tout un message là-dessus, que j'ai été conçu pour le plaisir de Dieu. J'ai été conçu pour le plaisir de Dieu. Combien ne savent pas ça? Combien ne le savent pas? On a du boulot, hein? On a du boulot. Je vais vous donner un témoignage qui m'a énormément touché, que j'ai entendu sur Internet. Et c'est quelqu'un que tu aimes bien qui la raconte. Rémi, c'est Claude Houdin. C'est l'histoire d'une dame. Écoutez cette histoire, elle est bouleversante. Et elle montre ce que Dieu peut faire, c'est incroyable. C'est merveilleux. Et j'aimerais qu'on ait la foi pour voir des histoires comme ça dans notre église et autour de notre église. L'histoire d'une dame, membre d'une église à New York, aux États-Unis. Elle chantait dans la chorale de l'église. Tout allait bien. Donc je dirais, ce n'était pas la tour de Pise au départ. C'était bien. Tout allait bien. Jusqu'au jour où se passe un drame. Son fils, avec qui elle s'entendait très bien, il y avait une bonne relation, est sorti un soir avec un ami. Et c'est cet ami qui conduisait. Et lui se trouvait donc à la place du passager. Et le chauffeur, malheureusement, son ami, n'était pas à sang frais ce soir-là. Il avait consommé un peu trop d'alcool. Il a perdu le contrôle de son véhicule, qui est allé heurter de plein fouet un obstacle, une barricade, je ne sais pas quoi, côté passager. Le fils de cette dame n'a pas survécu au choc terrible. Tandis que le chauffeur, lui, n'a pratiquement rien eu. Cette dame s'est éteinte spirituellement, rongée par la colère, l'amertume. Elle a continué à fréquenter la chorale quand même, dans l'église, mais chaque fois qu'elle entendait des chants sur la fidélité de Dieu, ça l'a révoltée. Sa formation était attaquée, comme la tour de Pise. Il est clair que de mauvaises convictions l'ont habité. Dieu m'a abandonné, certainement. Dieu m'a trahi. Je ne peux plus lui faire confiance. Et il s'est passé quelques années. Claude Oud, qui raconte cette histoire, est venu prêcher un dimanche dans son église. Et il prêchait sur le pardon. Et il prêchait sur le relâchement, relâcher l'offense. Voilà, relâcher par rapport à le relâchement par rapport à l'offense. Et pendant la prédication, elle s'est levée pour partir, révoltée, en colère contre l'orateur. Et au moment où elle sortait, il y a eu un combat spirituel. Elle a entendu comme une voix qui lui a dit « Tu penses que tout est fini. » Pourtant, c'est le moment de réagir. C'est maintenant le moment. Elle est revenue dans la chorale. Plusieurs ont prié pour elle. En l'espace de quelques semaines, elle a commencé à se redresser. Et Dieu a commencé à mettre en elle des pensées qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Des pensées de compassion envers ce garçon responsable de la mort de son fils, au lieu de la haine et de la colère. L'énergie est revenue. Et une pensée folle d'un coup l'a habitée. Je vais aller visiter ce garçon. Je vais aller le visiter. Et ce garçon se trouvait dans un pénitencier, parce que des charges lourdes pesaient sur lui, forcément, et aux États-Unis, ça rigole pas, hein, par rapport à ça. Hein. Et quand ce garçon a vu cette dame, et quand elle a su qui elle était, il s'est mis à genoux, plein de larmes, en criant « Je suis désolé, je suis désolé ». Et cette femme a été remplie de compassion. Remplie de compassion. Elle en était inondée. Et ce garçon a été condamné, bien sûr, mais une fois la sentence terminée, il y avait pour lui la possibilité d'une libération conditionnelle. Mais le juge réclamait un garant. Quelqu'un qui se porte garant pour lui. Et cette dame a dit, je veux bien être ce garant. Je veux bien prendre ce garçon comme mon fils. Et des années après, Claude Oud a revu cette femme rayonnante dans une réunion avec ce garçon qui s'était marié avec sa femme rayonnante et un bébé. Vous vous rendez compte ce que Dieu fait ? On peut applaudir Dieu là. On peut l'applaudir. Ouais, merveilleux, hein ? Cette histoire est bouleversante. Ouais, et c'est des histoires. On veut voir des histoires. On veut croire Dieu capable de telles histoires. C'est merveilleux. Voyez comment cette femme a entendu la voix de Dieu, mais elle a contesté sa conviction. Et elle s'est redressée. Alors j'en arrive à la conclusion. Mais juste avant, ne quitte pas, parce que j'ai encore juste une diapo après. J'aimerais prier, simplement. Ouais. J'aimerais juste faire une prière, mais qu'on soit tous en prière maintenant. Hein, qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Parce que ce qui est important, c'est ça, hein, c'est que Dieu nous transforme. Hein, que cette parole nous transforme. Je pense à cette parole de psaume 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alors on va prier avec foi. Merci Seigneur de continuer ce matin ton œuvre de réajustement avec toi. Oui, tu veux redresser ce matin tous ceux qui sont un peu courbés, beaucoup courbés, je ne sais pas. Merci pour la présence de l'Esprit Saint. Qui est l'esprit de vérité. Et l'esprit qui révèle les courbes, les mauvaises convictions en nous, les fausses croyances, les mauvaises interprétations d'événements qui ont pu affecter nos vies. Merci pour ton esprit de révélation. Et si, Seigneur, ce matin, tu as révélé une conviction responsable de ma mauvaise croissance, responsable peut-être d'une situation de blocage, maintenant, je conteste cette conviction. Y a-t-il une mauvaise conviction? Nommez-la dans le secret de vos cœurs. En priant ce matin, je recevais, il y a peut-être quelqu'un qui dit, oh, je ne pourrai jamais guérir. Je ne pourrai jamais guérir de cette blessure secrète. Ouais. Je ne peux pas guérir. Voilà, Dieu veut renverser, l'Esprit Saint veut renverser cette forteresse. Peut-être une autre forteresse, je l'ai citée tout à l'heure, je ne peux pas changer, je ne peux plus grandir. Je ne peux plus atteindre ma destinée. Ou quelqu'un d'autre, il ne peut pas changer. Il ou elle ne peut pas changer. Elle ne pourra jamais changer. Dieu veut renverser ces forteresses. Je déclare ce matin, Seigneur, que je continue de mettre ma confiance en toi. Sûr que tu as encore d'excellentes choses pour moi, sûr de ton amour, de ta bonté, je confesse ce matin que tu me redresses par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans une relation de puissance. Et Seigneur, je t'en prie, continue cette semaine ton œuvre de révélation en moi, de réajustement, de redressement. Tu peux encore me parler cette semaine. Amen. Fais-le, Seigneur, fais-le. Amen. Voilà. Et en conclusion, je passe une dernière diapo, une dernière parole. Dans le texte qu'a lu Odette ce matin, il y avait ça. Dans la lettre aux Corinthiens que tu as lue, il y avait ça. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est une parole d'introduction de Pierre dans sa lettre. Pierre qui, sa vie, à un moment, a fait ça. Trois fois, il a renié Jésus. Et d'ailleurs, Jacques a rappelé que trois fois, ce matin, Jésus lui a dit, m'aimes-tu ? C'est ce Pierre qui dit que la grâce et la paix restent toujours au même niveau. Reste au niveau où tu es. Non, te sois augmenté, te sois multiplié. Mais nous devrions nous bénir les uns les autres de cette manière. Que la grâce et la paix nous soit multipliée, si on est sur un bon fondement, une bonne, une juste connaissance de Dieu, si je permets au Saint-Esprit de briser les forteresses mentales en moi, je suis appelé à voir mes réalités augmentées. Mes réalités de la grâce de Dieu augmentées. Et ceci dans plusieurs domaines de ma vie de prière, ma vie de couple, mes relations avec mes enfants, mes parents, au travail, mes finances, ma santé. Je suis appelé à me redresser pour continuer ma croissance droite vers une plus grande maturité, vers ma destinée. Et Pierre nous dit après, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, pour que je puisse hériter des plus grandes et des plus précieuses promesses. Alors je vous invite à vous lever et on va juste dans la foi. Est-ce qu'on croit que dans notre Église, Dieu va augmenter la grâce et la paix? Dieu va augmenter les réalités de la grâce et de la paix. Et on va tellement l'expérimenter que notre foi pour les autres va grandir aussi. Notre foi pour voir l'expérience de la grâce et de la paix chez les autres aussi grandir. Parce que là aussi, peut-être, il y a des forteresses. Oh non, oh le réveil, j'y crois plus. Les conversions, j'y crois plus. On a tout fait. Oui, mais non, mais je le dis, moi le premier, j'ai quelquefois dit ça. Je l'ai quelquefois pensé. Mais non. Est-ce qu'on est prêt à nous attendre à des conversions encore? Des gens qui vont dire, oui. Est-ce qu'on est prêt à entendre des histoires comme on a entendu? C'est incroyable. Amen. Alors, est-ce que vous, trouvez-vous un partenaire? Pas forcément votre conjoint. Chez vous, vous pourrez en couple. Juste un partenaire pour vous proclamer cette parole, c'est tout, toute simple, donc tout le monde peut le faire. Voilà, Odette, Huguette, vous êtes à deux, Michel, les deux Michel, voilà, et vous dites l'un à l'autre, voilà, vous dites l'un à l'autre que la grâce et la paix vous soient augmentées, que la grâce et la paix, dites-le l'un à l'autre, Huguette, tu le dis à Odette.
La grâce et la paix vous soient multipliées.
Dis-le à Huguette, voilà, Huguette, dis-le à Odette, voilà. Amen. Amen. Christine, allez. Ah, je l'ai fait, oui. Voilà.
La grâce et la paix amen. Multipliées par la connaissance de Dieu.
Amen.
De Jésus,
amen. Christine, que la grâce et la paix te soient augmentées et multipliées. Qu'il y ait plein de belles choses. Amen. Amen. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, on y croit dans la foi, hein. On y croit. On y croit. On conteste nos mauvaises convictions. On les conteste pour être dans la vérité. L'Esprit Saint est un esprit de vérité. Nous allons vaincre le mensonge. Amen. Que la grâce et la paix vous soient augmentées dans tout votre groupe là. Amen. Je m'excuse, il y a une erreur dans la référence. C'est 2 Pierre 1, 1-2. Et non 2 Pierre 2. Voilà, toutes mes excuses pour l'erreur. C'est 2 Pierre 1, 1-2.